En cette fin d'été, je suis très heureux de retrouver et de réunir donc, eh bien, les Seven Weeks dans les studios de la radio Bob FM. Bonjour Jérémy, bonjour Julien.
Bonjour.
Salut.
Alors, en cet automne 2026, sachez que les Queen of the Stone Age sortent un nouvel album. C'est aussi le cas pour les Seven Weeks. Il y a un nouvel EP qui sort. Est-ce que vous collez votre actualité sur la Queen of the Stone Age ou pas? Comment ça se passe?
Non, c'est eux qui la collent sur nous.
Pas vraiment.
Ok. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on vous a souvent comparé, c'est un nom en tous les cas de groupe, qui revient dans vos différentes influences, les Queen of the Stone Age. Quelques années plus tard, Seven Weeks donc, a évolué, nous a proposé déjà plusieurs EP, plusieurs albums. Et aujourd'hui, donc, vous revenez avec ce fameux Going Back Home, qui, nous dit-on, a été produit et enregistré par un certain Brian Bushby. Bushby, comment on dit d'ailleurs?
Bushby,
ok. Qui est tout de même une personne qui est référencée dans ce milieu-là. Est-ce que vous pouvez me parler de lui? Parce que je trouve que c'est assez important tout de même, là où vous en êtes dans votre carrière musicale, d'en parler et puis de voir quels sont les liens, comment ça s'est effectué, tout ça, quoi.
En fait, on s'est toujours plus ou moins autoproduit en laissant quand même une grande marge de manœuvre aux personnes avec qui on travaillait, notamment Pascal Mondaz qui a réalisé 4 ou 5 de nos disques, je ne sais plus, pas mal. Mais on voulait passer un cap et complètement déléguer à quelqu'un de très compétent. Alors, bien sûr que les gens avec qui on a travaillé sont tous très compétents, mais là, on est sur quelqu'un qui a quand même des Grammys pour des artistes internationaux de rock. Donc, ça nous intéressait de se concentrer sur l'écriture en se mettant la pression un peu parce que la barre était haute et de, par contre, tout déléguer à une personne extérieure, vu que jusque-là, moi, j'étais, par exemple, toujours là au mixage des albums, ouais, et au mastering et tout. Et là, on a tout délégué, y compris les remarques éventuelles d'un extérieur sur les morceaux. Et ça, c'était super, c'est ce qu'on voulait. Et en plus, bah, c'était hyper, hyper intéressant, hyper génial de fonctionner comme ça.
Justement, on va revenir sur les détails parce que je pense que ça intéresse aussi les gens de connaître le travail d'un producteur à ce niveau-là, tel qu'on peut l'entendre. Parce que souvent, et toujours même, on voit sur les disques un produit enregistré par, mais on ne se rend pas compte réellement du travail que cette personne peut avoir sur la musique et le rendu d'un groupe. Mais tout d'abord, on va revenir à l'essence même de cette fameuse rencontre parce qu'il faut oser aussi le contacter. Déjà, un, il faut choper son contact. Deux, oser le contacter. Trois, qu'il réponde positivement. Et après, trouver un rancard. Alors, qui a franchi le cap? Comment ça s'est passé?
Assez simplement, en fait. Hein.
Ouais, en fait, on a appris qu'il connaissait déjà le groupe. Il avait écouté le précédent album, là,
cool.
Fade Into Bloodlines.
Ouais.
Parce qu'il traîne pas mal, il regarde ce qui se passe. Et on nous a parlé de lui. Et ce qui était drôle, c'est que moi, j'avais découvert un groupe peu connu, un groupe anglais, quelques semaines avant qu'on nous parle de lui, qui était produit par Adrian, en fait. Donc, coïncidence. Et après, on l'a contacté. Via son manager, et on est rentré en contact, on a commencé à discuter, et ça s'est fait très simplement, en fait.
Ouais, très, très simplement.
Ok, donc ça veut dire que c'est aussi une personne qui a un calendrier, entre guillemets, disponible pour pouvoir aussi se faire plaisir avec des groupes moins connus, et ouvrir aussi son studio, puisque c'est son propre studio.
Le mixage était en son propre studio,
ouais.
Le studio dans lequel on a été, c'est un studio qu'il connaît très bien, dans lequel il fait beaucoup de sessions. Et voilà, il y a plusieurs studios où on pouvait aller. Lui s'est proposé de venir en France aussi, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de sortir de France, d'aller en Angleterre.
Exactement, oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais vous avez été enregistré donc cette EP en Angleterre. Là encore, par rapport à ses dispos et aux vôtres, est-ce que c'était déjà facile? Est-ce que c'est un travail qui remonte tout ce travail d'échange, en tous les cas? Est-ce qu'il a fallu prendre du temps et donner du temps pour que ça se mette en place?
Pas tellement. Ouais. Faut attendre les réponses qui mettent du temps des fois à venir, mais au final, ça se met assez facilement en place. Après, c'est quelqu'un qui a travaillé avec des très gros artistes et qui aujourd'hui, je crois, s'intéresse de plus en plus sur des productions d'artistes comme nous. Et donc, il est, je sais pas, entre le moment où on l'a contacté et l'enregistrement, il s'est passé, je sais pas, 4 mois, 5 mois.
Ouais, 5 mois.
5 mois, ouais.
Oui, donc c'est assez rapide tout de même.
Ouais, finalement.
Ouais, parce qu'après, il y a aussi un accord. entre guillemets commercial, puisqu'évidemment il faut réussir à trouver une entente sur le tarif, puisqu'il a son propre tarif, j'imagine.
Oui, oui.
Après, peut-être qu'il ajuste son tarif en fonction de qui lui demande, si c'est donc un groupe qui fait partie d'une major, qui a peut-être d'autres formes de budget que le vôtre. Là-dessus, il n'y a pas eu de souci.
Non, je ne pourrais pas dire s'il a arrangé ses tarifs. Tout ce que je sais, c'est que on a beaucoup discuté avec lui, on s'est vu avant d'enregistrer et tout.
Ouais.
Et il était peut-être fasciné, c'est un grand mot, mais par notre fonctionnement. Il hallucinait de voir. Il est venu à Limoges, il a vu notre local de répète, il a vu où est-ce qu'on évoluait et tout. Et on lui a expliqué qu'on faisait tout nous-mêmes. Et il était super intéressé et super respectueux de tout ça.
Ok. Ouais. Pourquoi c'est lui qui a demandé à venir à Limoges ou s'il était l'occasion, il était sur la route?
Non,
ou...
ça fait partie du deal. Quand tu as un producteur, il vient quand même faire de la pré-production. Et donc, il vient dans ton local de répète ou ailleurs d'ailleurs, mais on se voit en amont de l'enregistrement.
Ok,
oui,
d'accord.
Ça travaille en amont. Nous, on lui a envoyé des démos qu'on avait fait nous-mêmes.
Ouais.
Ensuite, on s'est vu par Skype. On a parlé de ça. Et de lui-même, il a dit bon, ben, le mieux, c'est que je viens à Limoges, on lui dit, bah, ça tombe bien, Londres-Limoges, ça se fait facilement. Ça,
oui, il y a un avion, c'est bien, c'est pratique.
Et on s'est retrouvé avec lui dans le local, ouais.
Ah, mais c'est plutôt chouette, parce que moi, franchement, je ne m'attendais pas, et je connais peu de groupes en local qui ont eu l'expérience d'avoir un réel échange du début à la fin, à ce que la personne vienne sur place pour voir un petit peu comment le groupe évolue en local. J'avais plus l'expérience, moi, de gens qui sont allés à la rencontre de ces producteurs-là, dans des studios à l'étranger, et de travailler directement en lien... avec, cela dit, un manque de temps aussi, puisqu'il faut être plutôt efficace lors des sessions d'enregistrement, puisqu'il y a aussi ça qui coûte cher. Donc, c'est plutôt chouette. Et vous l'avez fait découvrir la ville de Limoges en même temps.
Oui, il a adoré. On a été manger, boire des coups, on lui a montré la cité, tout ça. C'était super.
Ah, c'est chouette. Revenons maintenant à son travail de production, puisque tu disais dans l'introduction qu'il avait... dit les choses telles que lui les entendait. Alors, ça part de quoi ? Puisque vous êtes parti en Angleterre, donc ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas parti avec vos propres amplis, mais avec vos guitares et vos basses, au moins, votre basse.
Si, on a tout emmené.
Vous avez tout emmené ?
Ouais.
Ok. Et dans le studio, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient mises à disposition qui ne vous ont pas du tout servi ou qui vous ont peut-être servi
Oui, oui, il y a plein de choses, mais il est venu... En fait, ça, c'est très simple. C'est tellement simple que ça peut sembler presque un peu bizarre.
Ça fait tomber le mythe.
Ça fait tomber le mythe parce qu'il y a un peu une mythologie souvent
autour
de tout ça.
Oui, il y a une espèce de fantasme. Ouais,
en fait, il est venu au local, il a dit, les gars, ça sonne super. Il y a ça comme matos, mais si vous voulez venir avec votre matos, vous venez parce que je trouve que ça sonne super. Donc, nous, on a tout emmené. Hein.
Ce qui est bien, parce qu'il n'y a pas le truc en plus qui fait que la magie du studio change le son du groupe que l'on ne trouve pas en live.
Alors la magie du studio, ça relève aussi du mythe. En fait, c'est juste, il est là, il te colle le son direct.
Mmh.
Ça, c'est impressionnant.
Ça veut dire quoi, coller le son ?
Et ben,
pour les gens qui ne sont pas habitués
souvent, je sais pas, des musiciens vont dire, en studio, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on a un peu une écoute un peu pourrie pour enregistrer, c'est pas pratique et tout. Nous, c'était génial. Et tout ce qu'on entendait, on était là, putain, ça sonne super tout de suite, quoi.
Ok.
Donc, on était ultra prêts.
Ouais.
Donc, en fait, ça s'est passé très vite. On est resté une semaine, quoi, en studio. Même pas. Si, une semaine. Et,
même pas.
Et en fait, il n'y a pas grand-chose à raconter. On a branché, t'as un mec qui fait un super son, il est ultra enthousiaste.
Il te met super
à l'aise. Tu fais ta journée, t'es hébergé dans un endroit qui est vraiment, vraiment top. C'est un ancien moulin, tout refait, comme dans les vieilles campagnes anglaises et tout.
Ok, c'était vers où du coup ?
C'est entre Londres et Birmingham, à mi-chemin quasiment. Okay. Et c'est à Rugby, là où le rugby a été inventé.
Oui, tout à fait.
Et alors, faut pas dire ça aux gens du Sud. Ouais, mais voilà, et le soir, tu vas au pub et tu bois des coups avec les vieux qui tu parles de Deep Purple et tout. Enfin, c'est un autre pays quand même.
Oui, c'est un pays qui a une culture musicale qui est différente que celle que nous vivons en France,
c'est
évidemment.
Ça.
Il peut y avoir des vrais échanges. Maintenant, parlons de son travail de production. Quel regard il a sur votre musique, puisque tu le disais, il a dû donner son avis, j'imagine. Et son regard s'est porté sur quoi ?
Déjà, tu lui envoies les morceaux, il se porte sur sur l'écriture des chansons, en fait, il est concentré là-dessus. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, sans même qu'on ait joué, en fait, juste en nous voyant nous trois, puisqu'on est en trio maintenant, là, depuis le précédent album, il sait exactement la place de chacun, en fait, en parlant. Et ça, il le retranscrit dans le son, il le retranscrit dans le mix. Et du coup, il fait sonner le groupe comme il sonne live, mais super bien et en sublimant, en fait, les chansons. Et quand il était à Limoges, il est très pertinent parce qu'en fait, il met toujours le doigt sur le petit passage que tu tournes dans tous les sens, que tu retournes depuis six mois.
Ouais, que t'arrives pas à
mettre
en place.
Parce que tu sais qu'il y a mieux à faire, mais tu reviens toujours sur ton truc de base parce que tu te retrouves pas et puis tu t'en contentes. Lui, en fait, il arrive, il dit « Ah ouais, là, tiens, fais juste ça, mais c'est trois fois rien. » Il change un accord, le premier accord d'un refrain, il change... On a fait tout ça, ça c'était super, c'était passionnant
ouais.
en fait.
Ah ouais.
Et on a fait ça la journée où il est venu à Limoges. Et à chaque fois, ça te débloque le truc en fait. Et lui te dit, mais non, mais moi j'écris pas les chansons. Il se lève, il appuie sur les manches des gars en disant, tiens, fais ça, fais ci. Et c'est toujours ultra pertinent en fait.
Okay.
Et c'est que du ressenti. Quand il est arrivé au local, il s'est assis devant l'ampli guitare.
Ouais.
On joue fort hein, dans
ouais,
le local.
Ouais, ouais, ouais.
L'ampli guitare, il est à peu près 1m50 de la caisse claire. Mmh. Et il se met là, en fait. Et il écoute le son du groupe. Et il se place par rapport à ça.
Autre travail aussi, celui de l'enregistrement. Est-ce que dans sa façon de travailler, à savoir, je ne sais pas moi, certaines personnes en studio ont chacun leur façon de faire, de positionner les micros, de prendre des mesures. Tu vois, il y a plein de choses. Moi, j'ai vu plein de choses différentes. Ça, par rapport à ce que votre vécu aussi et votre historique, est-ce que sa façon de travailler est assez commune, en fait, par rapport à ce que vous avez connu ? Ou il y a des choses qui vous ont surpris ?
Ben, par exemple, quelqu'un qui mesure la distance des micros, nous, on va le regarder comme ça, avec des grands yeux, et lui, on ne l'a jamais vu faire ça. Hein. Tout se passe... c'est du ressenti, c'est de l'écoute.
C'est avec les oreilles.
Ouais. T'as la pièce, t'as les instruments, t'as le machin, puis place les micros.
Parce qu'il faut dire que l'enregistrement a été fait live. Vous avez joué tous les trois en même temps, et les chants ont été faits après ?
Non. Oui, on joue tous les trois en même temps, ouais. Mais après on refait la basse, après on refait la guitare, et après okay. on fait le chant.
Oui, ça c'est sa manière de travailler, ouais. Okay. Il enregistre la batterie live, c'est-à-dire ouais. on joue basse, batterie, guitare live,
okay.
et après il refait guitare, basse sur la batterie, en fait,
okay.
et après les chants.
Ouais.
Lui, il bosse comme ça, ouais.
Mais il a toujours fait attention à conserver le côté punchy et énergique et immédiat du groupe. Mais on en avait beaucoup parlé avec lui, on disait on a toujours eu des albums assez produits dans le sens où on rajoutait des instruments faire de la stéréo, des claviers, des guitares, folk, beaucoup de chœurs et machin
oui,
et tout. Et on disait on voudrait aller plus à l'essentiel et lui il a tout de suite capté comment aller à l'essentiel. Voilà.
Bah, c'était une belle rencontre.
C'était super, en plus c'est un mec adorable, mais vraiment. C'est vraiment quelqu'un de super.
Et techniquement, non, il n'y a rien de compliqué. Il met des SM57 sur les caisses claires. Il fait pareil sur les guitares. Enfin, pour ceux à qui ça parle, les SM57.
Ouais, ouais. Voilà, c'est des micros basiques.
Et comme il dit,
partout,
dit
hein.
Bah, si ça sonne, voilà, ça sonne hein. une bonne voilà. pièce, ouais. ça joue bien. Et puis voilà.
Ok. Pas besoin de bande analogique ou autre système magique pour produire le son de cette EP qui s'appelle Going Back Home. Et c'est justement ce fameux retour à la maison, il est là-dedans, j'imagine. Il est dans la façon d'être et de faire de ce nouvel EP. C'est un retour à la maison et un retour à des choses beaucoup plus simples.
Oui, ça peut être vu comme ça. Et c'est une des possibilités de lecture. Et on trouvait que justement, c'était cohérent de mettre ça en titre. C'est un titre qu'on a depuis le dernier album, par exemple, qu'on n'avait pas terminé. Mm. Mais on voulait revenir à quelque chose de plus simple. On voulait revenir à quelque chose de plus fondamental chez nous, parce qu'on a fait beaucoup de... Pas d'expérience, mais on n'est pas un groupe expérimental, mais on a...
Non, mais vous avez exploré... été un peu touche à tout.
Voilà, on a exploré pas mal de voix, et souvent, dans un même album, il y avait plusieurs voix à explorer. Mm. Et là, on avait envie de faire un album de morceaux... efficace, qu'on sait qu'on va pouvoir jouer en live sans problème. Et d'ailleurs, quand on est revenu au local, en sortant du studio, qu'on a rejoué les morceaux, on s'est dit, mais tout est là tout de suite, quoi.
Ouais.
Et donc, on voulait cette immédiateté qu'on n'avait pas forcément sur les derniers disques, parce que immédiateté live, hein, je parle.
Oui, oui, oui.
Et dans l'écriture, on a beaucoup travaillé pour se dire, il faut que ça se fasse sans penser à rajouter quelque chose en se disant, si je rajoute ça, le refrain va être super. Non, vous voulez que ça soit tout, soit là tout de suite.
C'est aussi un autre travail qui est fait, une façon intellectuelle de repenser sa musique. C'est peut-être pas d'ailleurs le plus évident.
Non, c'est très dur.
Parce que j'imagine qu'on peut entendre des choses un petit peu, si je ne sais pas, imaginer des claviers qui viennent augmenter la force du refrain, ce genre de choses.
Oui, le contrepoint, le contrechant et tout ça, ça aide souvent à faire sortir un refrain ou une mélodie et tout. Mm. Et quand on enlève ça volontairement, oui, c'est plus compliqué. Il faut que ça soit bien. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas assez bien.
Autre regard, parce que tu me disais que ce « going back home » pouvait être vu et compris de cette façon-là. C'est quoi les autres façons de le comprendre, ce retour à la maison ?
Si tu regardes le texte du morceau qui s'appelle « Going back home », oui, c'est « on revient pour voir des choses qui n'existent plus ». C'est-à-dire une sorte de, je sais pas, de paradis perdu, ou du moins de passé qui appartient au passé, quoi. Donc c'est un peu... Il y a deux sens là-dessus, mais justement, ça nous plaisait d'avoir ces deux images-là. En tous les cas, le texte n'est pas un retour à la maison super heureux et où on retrouve tout ce qu'il y avait. Non, c'est un retour à la maison où on se rend compte que le retour en arrière ne sert à rien. Mais par contre, dans le côté, en tant que titre du EP, ce Going Back Home fonctionnait très très bien avec notre volonté de revenir à quelque chose d'immédiat d'évident, quoi.
Ok. Alors, on en parle parce que c'est aussi intéressant, parce que les gens ne comprennent peut-être pas tous les textes, on n'a pas accès à la lecture de ces textes-là pour comprendre ce qu'il en est réellement dans le fond. Et c'est aussi peut-être pas évident à travers le visuel de la pochette que vous avez choisi. C'est-à-dire qu'on voit, c'est quelque chose de très lumineux, entre guillemets, puisque vous avez joué avec la lumière pour cette photo qui a été prise par qui d'ailleurs ?
C'est une création graphique.
Je ne sais pas, c'est une création graphique. Il y a probablement une photo là-dedans,
ouais.
Mais je ne sais pas. C'est Gilles Stinès qui fait tous nos visuels,
oui,
qui nous a
qui
proposé
revient de vous.
Ça.
Ok. Ouais. L'occasion pour vous donc de fêter ce disque, mais avant de parler de fête, parlons peut-être de frustration, puisque le fait d'avoir eu la possibilité d'aller en Angleterre, d'enregistrer avec une personne avec qui vous êtes bien entendu, est-ce que c'est pas frustrant de revenir qu'avec ces quelques titres, et peut-être pas pour un long format ? C'est quelque chose d'un peu plus dense.
Alors d'habitude, nos albums font 9 titres.
Oui.
Là, ça fait 6 titres.
Oui.
Sachant que les gens sur les plateformes, ils écoutent moitié d'un.
Voilà.
On s'est dit que 6, c'était bien en fait.
Non, mais
c'est aussi profiter du moment pour vous, tu
oui,
vois, qui est à y être et à vivre une expérience comme ça.
C'est ça. On voulait vivre l'expérience et on voulait voir ce que ça pouvait donner de se confronter à une méthode de composition ultra minimaliste.
Ouais.
Et ensuite de tout déléguer, de rien toucher, ce qui n'est jamais arrivé dans le groupe. Et donc, on a préféré le faire sur un EP. Mmh. Ça aussi, un certain coût, faut bien le reconnaître.
Oui, complètement.
Qu'on est totalement en indé, on n'a personne derrière nous, donc c'est la thune du groupe qui paye ça. Mais par contre, oui, on a très envie d'y revenir. Ça, c'est évident. Dès qu'on peut.
On verra ce que le futur nous dira pour l'enregistrement du prochain album de 7Weeks. Mais c'est bien, parce que ça donne aussi l'envie de continuer à écrire des morceaux, ça donne l'envie de continuer sa musique avec 7Weeks.
Encore plus.
Ah ouais, c'est ça. Tu vois, il y a une forme de motivation et de rêve peut-être absolu à toujours aller chercher, puisque le prochain album sera peut-être l'album extraordinaire, celui qui marquera la vie de 7Weeks dans le monde entier. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est magique. Revenons au CCM John Lennon. Donc, avec ce concert, vous jouez avec qui ?
Avec Dirty Deep et
Earth Inc.
Ce sont des formations que vous avez souhaité inviter ?
Oui, c'est ça.
Exactement, ouais.
Est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Dirty Deep, ils sont de Strasbourg.
Ouais.
Ils se qualifient en Heavy Blues, je crois. Parce que les étiquettes... oui, c'est ouais. ça. Ils ont Victor, le chanteur lead, a aussi un projet solo, parce que des fois, ils tournent en solo. Je sais que cette année, ils tournent plutôt en solo. D'ailleurs, avec 3-4 dates en trio.
Ouais.
Dont celle de Lennon. Et ça, c'est un groupe qu'on connaît depuis un moment, parce que c'est pareil, ils sont très indépendants. Ils tournent partout en France depuis un bail. Et on s'était dit que ça pouvait être intéressant, en fait. On avait entendu parler par des amis en commun. On s'était dit que ça pouvait être intéressant de croiser les styles et de ne pas faire un plateau 100% aussi Limougeau, chose qu'on avait faite la dernière fois, il y a 3 ans.
Ouais.
Et puis voilà.
In black and white suits united by the color.
Et l'autre formation ?
Et Earth Inc, c'est un groupe avec des gens qui ont déjà pas mal de vécu, qui avant s'appelaient déjà Earth Inc, mais ils étaient en duo. C'est les anciens gars de World Trade Disorder, Walking the Dog, enfin c'est des gens qui ont un passif Limougeau assez important. Et là, ils sont en grande formation et ils ont fait leur premier concert au bâtiment 25. C'était carton plein. Et voilà, c'est un groupe qu'on connaît. Ce sont des gens qu'on connaît aussi personnellement. Donc, on leur a proposé de venir, comme on fait souvent à chaque fois. Oui. À Limoges, on prend toujours quelqu'un local. On a fait jouer quand même pas mal de groupes de Limoges quand on a fait les releases, quoi.
Exactement. Vous pourrez donc bien découvrir le live, ce sera le 6 novembre. L'album, lui, quant à lui, ce sera le 18 septembre, que sortira donc ce fameux Going Back Home. D'ailleurs, c'est une tournée, encore une nouvelle tournée qui s'annonce. Est-ce que c'était l'occasion avec la sortie de cette EP de se dire, tiens, est-ce qu'on repart sur les routes ?
De toute façon, aujourd'hui, il faut tourner. Hein.
On est donc, bien d'accord, mais faut-il encore trouver des dates ? Parce que je discute avec les groupes et...
À qui le dis-tu ?
Tout le monde se pose la question de, ok, l'économie de la musique, les revenus en tous les cas des groupes passés par la vente de disques, ça a disparu. Après, tout le monde se disait, en fait, l'économie d'un groupe, c'est les lives. C'est en train de s'écrouler. Donc, qu'est-ce qui reste au groupe maintenant pour réussir à vivre ?
C'est surtout
faire de l'édition, placer une pub McDo, ta musique. Enfin voilà.
Il y a de l'économie dans le live, mais après, c'est de plus en plus resserré. C'est de moins en moins bien redistribué comme partout.
Ouais.
C'est exactement le même principe. Il y a beaucoup de monde aussi.
Il y a beaucoup de groupes.
Il y a beaucoup de groupes qui tournent parce que tout le monde se rabat sur la tournée. Donc oui, une nouvelle tournée, elle a de la gueule.
Oui, complètement.
Et on est très contents, là on va faire 24 dates en tout, donc ça fait 20 dates sur l'automne. C'est une première partie, on va en mettre une deuxième sur le printemps normalement. Voilà, on fera la Maroc à Paris en date de release, comme la dernière fois, donc ça c'est en janvier 2027.
Ouais.
Et puis après on fait toutes les villes... peu principal.
Ouais, vous faites des endroits qui sont plutôt chouettes.
Ouais,
tu vois.
Des belles salles. Ouais.
Bah ouais, il y a la coopérative de mai à Clermont, il y a la Rock School Barbé à Bordeaux, enfin, il y a le Rockstar à Montpellier, qui sont des salles emblématiques en France aussi. Donc ça veut dire que vous avez envoyé cette EP au programmateur de ces salles-là ?
Non, on a fait le booking sans envoyer le EP.
C'est vrai, ok. Vous avez eu un retour positif avant même.
Ouais, après on a un historique de tournée.
Ah, c'est sûr, d'accord.
Et puis comme on arrive derrière la précédente tournée, celle de Fade Into Bloodlines.
Ouais.
Ça a permis en fait de débloquer tout ça. On a aussi proposé un co-plateau, donc des dates en co-tête d'affiche avec un groupe toulousain qui s'appelle Psycup.
Ok.
Pour les salles à jauge importante, pour motiver un peu tout ça, parce qu'en effet, faut réussir à convaincre aujourd'hui. On a déjà fait pas mal de tournées, donc il y a du monde, il y a de la compétition. Mais non, notre historique de tournée nous a permis de faire ça. Je dis pas que c'était simple. Mais ça nous a permis de faire ça.
Puisque vous êtes avec moi, comment s'est passée justement la dernière tournée ?
Très bien.
Ouais,
tout s'est bien passé ?
Très bien, oui, c'est étalé de octobre 2023
parce que vous avez pas mal joué.
À juillet 2020, août 2025.
Ouais, ouais.
On a fait, je ne sais plus combien de dates, mais on a fait pas mal de trucs, dont le Hellfest en main stage, des gros trucs comme ça, et puis plein de, plein de festivals de 1000 à 5000. Et ça, c'est le top. C'est vraiment ce qu'on préfère, quoi.
Tu m'étonnes.
Et c'est bien, mais toi, quand tu disais les groupes, ils ont du mal à trouver les concerts et tout. Oui, c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus compliqué. Mais ça dépend aussi où est-ce que tu veux aller, parce que tu dis qu'il n'y a plus d'économie dans le disque, avec les ventes de disques et tout. Mais c'est quand même la seule économie importante, les disques physiques, notamment sur les concerts. Donc
c'est ça, ça c'est tu les vends en live.
C'est ça, ouais. Parce qu'en magasin, ça a baissé. Ça n'arrête, ça ne fait que baisser.
Bah, et puis le streaming, ça rapporte que dalle pour des groupes comme nous.
On est d'accord. Voilà. Non, mais c'est complètement... L'économie du streaming, on n'en parle même pas, parce que c'est absolument ridicule. Elle rapporte de l'argent, mais pas au groupe, pas aux musiciens, ni au label, quoi.
Ça dépend si tu veux être saveur fermière ou Leclerc.
On est d'accord. On en revient toujours à cette même réflexion qui est très bien résumée en une phrase. Choisissez qui vous voulez être.
Le marché du dimanche ou Leclerc.
Très bien. Donc, comme d'habitude, vous l'avez compris, ce fameux retour à la maison donc, et ce nouvel EP signé Seven Weeks a été fait donc, eh bien, en autoproduction. Il s'appelle donc, eh bien, Going Back Home, signé par le label donc, eh bien, F2M Planet, label maison. Il y aura donc un support physique, puisque je sais que vous aimez donc ceci. Vous avez décidé de le faire sous quel format ?
CD Digipack livré, enfin quelque chose quand même qui a un peu de gueule. Et puis le vinyle est super beau, il est bleu, avec la pochette, enfin il est vraiment très classe. Quoi.
Ah oui, donc on est sur un vinyle coloré, assorti aux couleurs de la pochette et tout, très classe. Il ne reste plus qu'à découvrir tout ceci. Et vous, cher public, donc, eh bien, d'aller les soutenir en concert à travers les nombreuses dates de cette tournée, notamment à Limoges le 6 novembre. Merci à vous deux d'être passés.
Merci
à toi. Chami.
À bientôt.
Ouais.
Ciao. Live, don't stick around.